sans liberté. Une émission pour déménager la biologie. Voilà. La biologie s'occupe de nous, nous allons nous occuper de la biologie. Car en observant de plus près la vie des animaux qui nous accompagnent sur cette terre, certaines notions apparemment scientifiques paraissent incongrues. Il semble que l'on ait toujours cherché à tirer des énoncés normatifs à partir des descriptions de la nature, et la science se confond avec une histoire beaucoup plus idéologique qu'on ne l'admet souvent. C'est ce dont nous allons parler tous les quatrièmes lundis de chaque mois, entre 18h et 19h30, sur 89.4, Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Science en liberté, une émission animée depuis l'Anjou par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. Je suis Thierry Laudet pour animer une émission où nous nous amusons à questionner la biologie pendant 1h30. Que la science justifie des idéologies dominantes, cela n'est guère nouveau. L'idée du couple dans un système patriarcal est donnée comme une base primordiale, un fondement de la société, une origine quasi naturelle en quelque sorte. Mais comment s'est organisée la vie sociale au cours des temps géologiques ? Cette question primordiale de la biologie est souvent traitée comme une question de sociologie et à partir de nos seules conceptions actuelles. Si la famille est souvent présentée comme le fondement biologique de la société, c'est bien que la vie sociale dépend des rapports qu'entretiennent les mâles et les femelles, mais aussi que les générations construisent entre elles. Mais à y regarder de plus près, la nature semble bien plus indocile. Tout d'abord, bien que le rôle du père ait été donné comme dominant, la relation sexuelle laisse bien plus de place aux spermatozoïdes. Ensuite, la paternité est loin d'être donnée comme une évidence, et les mâles sont bien souvent inquiets de n'en rien savoir. Du coup, la famille et le patriarcat ne paraissent pas si naturels en soi. D'ailleurs, depuis les éléphants, en passant par les singes à tailles, de nombreux groupes de vertébrés admettent des mâles lors d'intrusions provisoires au sein d'une société de femelles, et ce, pour de brèves fiançailles. Chez les cerfs, aussi bien que chez les oiseaux, la vie sociale s'est édifiée autour de relations matrilinéaires, et le matriarcat révèle que sa surprenante organisation est bien plus commune qu'on ne le pense. En est-il autrement dans la vie humaine ? Il semble bien que nombre de systèmes sociaux privilégient aussi les relations féminines et que certaines formes de matriarcat défient encore un patriarcat dominant dans le monde marchand. Mais quel est le premier système qu'ait connu l'humanité ? Qu'en disent les anthropologues ? Qu'en disent les biologistes ? Et la famille patriarcale existe-t-elle chez les animaux ? Voilà, évidemment, des questions gourmandes entre biologie et société, comme nous aimons les poser dans cette émission nouvelle. me voilà aujourd'hui avec Chris pour examiner une autre idée qui passe pour un système naturel en biologie. Nous allons traiter aujourd'hui du matriarcat.
Bonjour Thierry. Oui, le matriarcat est le fait que l'organisation sociale se fait autour des femelles. Est-ce que l'on trouve une telle organisation chez les animaux ?
Alors les systèmes sociaux, ça concerne l'organisation des rapports entre les mâles et les femelles. Mais ça concerne aussi les rapports entre les différentes générations. Chez de nombreux vertébrés, le rôle des femelles adultes dans un groupement animal apparaît généralement primordial, car c'est elles qui ont à charge tout simplement la progéniture.
Et que se passe-t-il chez les hyènes ou les éléphants ?
Alors en effet, les hyènes ont adopté un système social complexe où ce sont les femelles qui tiennent le rôle le plus important. Mais nous parlons en fait d'une des trois espèces d'hyènes, car la hyène brune, qui pèse environ 40 kg, vit plutôt dans les déserts de l'Afrique du Sud. Et là, les clans sont d'une dizaine d'individus, ils restent mixtes, organisés autour d'une famille, d'un couple, qui est composé d'une femelle et parfois d'un ou deux mâles, et leur descendance. L'autre hyène, c'est l'hyène rayée. Celle-ci vit plutôt en solitaire ou en tout petits groupes familiaux, en général un couple et leurs jeunes, et ils exploitent les déserts d'Afrique du Nord et d'Asie. À chaque fois, à cause des conditions sévères et des faibles ressources, eh bien ça entraîne que ces animaux sont principalement des charognards qui vont mener une vie beaucoup plus solitaire, en tout cas beaucoup plus faiblement structurée, autour d'un couple ou d'un trio, une femelle, deux mâles, ou un mâle, deux femelles et leurs jeunes. Alors que ce n'est pas du tout le cas chez la hyène rayée.
Oui, mais chez les hyènes, cela va plus loin. Ce sont les femelles qui dirigent la troupe. Et l'hyène qui dirige tout, elle y va pas de main morte, hein ?
En effet, oui. L'hyène tachetée, qui est le nom vernaculaire de la hyène, adopte en effet un système social qui est très particulier. Les femelles, qui pèsent autour de 60-80 kg, sont toujours plus grandes que les mâles, qui pèsent eux 40-50 kg. En outre, les femelles exhibent un attirail sexuel tout à fait étonnant. Leur clitoris peut atteindre plus de 20 cm et forme un pseudo-phallus. Quant aux lèvres vaginales elles-mêmes, elles se soudent pour constituer un pseudo-scrotum, ce qui rend les femelles quasiment indiscernables des mâles, sauf par un seul critère, leur taille et leur force.
Et ce sont des animaux sociaux, où les femelles elles ont un rôle important donc.
Et oui, le clan des hyènes, qui est composé de femelles, comporte entre 15 et 80 animaux. Ce sont des prédateurs qui peuvent attaquer des zèbres ou des buffles. Elles vivent en groupe pour mieux résister aux lions et pour conserver le produit de leur chasse.
Alors, comment est organisé le groupe ?
Alors, comme on l'a dit, ce sont les femelles qui organisent toute la vie sociale. Il y a quelques mâles qui sont internes au groupe, mais il reste toujours des animaux subalternes. On peut donc dire qu'il y a une gynarchie, un pouvoir des femelles. Les mâles qui vivent dans le groupe n'ont quasiment jamais la possibilité de copuler avec les femelles du groupe. Ils participent aux chasses, ils participent à l'élevage des jeunes, mais dans le système social des hyènes, leur rôle s'arrête là. En revanche, au cours de la saison humide, les femelles adoptent des mâles étrangers et se reproduisent avec eux en toute promiscuité. En fait, on sait que 97% des accouplements se font avec des mâles étrangers qui vont apporter des gènes étrangers dans le clan. Autant dire que les mâles qui sont nés dans le groupe de hyènes n'ont pas d'autre choix que celui de partir, c'est-à-dire risquer leur vie en approchant un nouveau clan, et là ils pourront copuler, ou alors rester dans leur groupe, mais sans avoir aucune chance d'y laisser jamais une progéniture. Le système social des hyènes est donc typiquement matriarcal, au sens le plus traditionnel du mot.
Mais souvent on rapporte que chez tous les animaux, les mâles sont plus agressifs. On dit que les mâles seraient plus dominants par nature. Ici, ce sont les femelles. Cela pose question. Comment expliquer que les femelles soient si agressives par rapport aux mâles ?
Alors là, chez les hyènes, on a souvent pensé que ça pouvait être une question de testostérone, mais ce n'est pas le cas. Chez la plupart des animaux, si les mâles sont souvent amenés à des combats contre d'autres mâles, c'est parce que ce sont des rivaux sexuels. Et chez beaucoup d'espèces, le mâle peut essayer d'isoler la femelle pour obtenir une copulation sans avoir la concurrence des autres mâles. C'est le fondement du conflit des sexes, dont nous avons déjà parlé ensemble. Mais chez les hyènes, les femelles ont évolutivement acquis une plus grande taille, et ça pour lutter contre les lions et protéger leur descendance. Pas les mâles. Les mâles, au contraire, restent tout petits. Et les mâles internes du groupe sont les fils des portées précédentes. Et comme ils sont apparentés aux femelles, en refusant de copuler avec eux et en s'accouplant plutôt avec des mâles étrangers, les hyènes ont ainsi trouvé un moyen d'incorporer des gènes nouveaux dans la troupe. Grâce au matriarcat, ici, ça va réduire la consanguinité.
Par contre, l'hyène est-elle donc la seule à préserver, à présenter donc une telle organisation ?
Alors, cette organisation matriarcale, on la retrouve aussi dans les troupeaux d'éléphants de savane en Afrique. Les troupeaux d'éléphants peuvent comporter entre 10 et 20 individus qui vont être réunis autour d'une femelle âgée. Cette femelle guide la troupe, mais il n'y a pas de chef. La troupe ne peut survivre que grâce à son expérience, car elle mène les éléphants de point d'eau en point d'eau. Cette organisation très solidaire et familiale autour des sœurs, des tantes et de leur progéniture. Tout ça, ça permet de protéger les nouveau-nés, car les adultes, eux, n'ont quasiment pas de prédateurs. Les femelles vont ainsi soutenir leurs aînés et n'abandonnent pas facilement une mourante ou un nouveau-né quand il est en difficulté. C'est d'ailleurs cette entraide qui a donné le mythe du cimetière des éléphants. Chaque femelle est très très impliquée ainsi dans la vie sociale.
J'ai perdu ma tribu, tous mes frères et mes sœurs, que sont-ils tous devenus ? Et surtout, pourquoi ne me cherche-t-il pas ? Je trouve ça ingrat, pas sympa. Je suis un bébé éléphant égaré. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me rechercher ? J'ai bien peur qu'il se soit suivi dans le précipice, au fond des profondis. Et moi, qu'est-ce que je deviens dans tout ça ? Je me sens tout errata. Je suis un bébé éléphant égaré. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me rechercher ? Je ne me sens pas chez moi dans ces jungles inconnues. À ma vue, tous se sont encourus. Personne ne sait d'où je suis. Je suis un mal blanchi, impoli. Je suis un bébé éléphant égaré. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me rechercher ? Quelle tribu voudrait m'adopter ? Je suis un égaré, sans carte d'identité. Ok, je me plierai à vos coutumes, si vous acceptez mon volume. Je suis un bébé éléphant égaré. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me rechercher ?
Donc c'était Dick Hannegan, bébé éléphant égaré. Donc nous venons de voir que les éléphantes mènent le troupeau entre femelles et que c'est l'expérience qui fait la meneuse donc sans chef véritable. Et les mâles, qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps-là ?
Alors les mâles adultes, c'est bien connu, vivent en solitaire. En fait, ils n'interviennent dans le troupeau que vers l'âge de 40 ans quand ils sont grands adultes et où ils vont être à même alors de séduire une des femelles pour pouvoir engendrer. Il faut voir qu'un mâle vit entre 50 à 60 ans et il peut se montrer très acariâtre quand il est en rute. Aussi, il n'est pas toujours présent dans le troupeau, mais il reste un invité provisoire et il repart après la copulation. En général, les relations restent tout de même assez paisibles si le mâle trouve évidemment une femelle consentante.
Alors, tout à l'heure, tu disais que l'organisation des hyènes était matriarcale parce que les femelles étaient plus fortes, plus grandes. Ici, chez les éléphants, les mâles sont plus grands. Alors, qu'est-ce qui conduit à former le troupeau de type matriarcal ?
Ça, c'est une bonne question. En fait, chez les animaux, la plupart des groupes sociaux proviennent d'une relation de type familial. La mère regroupe ses petits autour d'elle, et c'est la réunion de plusieurs cellules familiales, mères et petits, qui va donner une organisation sociale de type troupeau. À ce moment-là, certains mâles peuvent y être invités. Ça, c'est le cas aussi bien chez les mésanges à longue queue, les geais bleus, les loutres cendrées d'Asie, les lions ou même, évidemment, chez les cerfs de nos forêts.
Ah bon ? Chez le cerf, ce n'est pas le mâle qui dirige le troupeau des biches, comme un harem.
Ah oui, ça, le mot harem, il a été beaucoup utilisé à tort et à travers en biologie. Alors que non, la société des cerfs, Cervus et Laffus, est typiquement matriarcale. C'est-à-dire que c'est la réunion de plusieurs cellules familiales qui vont associer la biche, la bichette et le daguet, qui fait le troupeau. Les mâles, pendant le brame, viennent sur les pâtures fréquentées par le rassemblement des femelles pour exprimer leur rivalité. C'est eux qu'ils viennent, mais ils ne participent pas autrement à l'organisation sociale. Et dès que le brame se termine, les mâles s'en vont solitaires ou rejoignent des petites troupes de célibataires. Ce sont donc les mâles qui visitent provisoirement le troupeau des femelles.
Donc ce sont des biches qui organisent la vie sociale de la harde.
Eh oui, mais on parle de matriarcat depuis le début. Mais si on regarde de plus près, il ne s'agit pas d'une organisation matriarcale au sens strict, car matriarcat signifierait le pouvoir des mères. Or, les biches ne développent aucun pouvoir. Il s'agit bien plus d'une organisation sociale de type matrilinéaire. Le système matrilinéaire est très courant chez tous les animaux sociaux. Parfois, mais cela est beaucoup plus rare, le mâle, l'étalon, va demeurer dans le groupe presque en permanence pour accéder aux femelles et interdire aux autres mâles de venir copuler, comme c'est le cas par exemple chez les chevaux, chez les vigognes, ou même apparemment chez les gorilles. Mais à chaque fois, les femelles assurent le fondement de la vie sociale. C'est bien la réunion des femelles qui fait le troupeau. Et le rassemblement de plusieurs cellules, femelles et jeunes, va constituer le troupeau. Les mâles vont visiter ce troupeau de temps à autre. La plupart des sociétés animales, quasiment toutes, sont donc typiquement matrilinéaires.
Matrilinéaire veut donc dire que ce sont les mères qui assurent la base de la société à travers le rassemblement des cellules familiales. Mais qui a alors le pouvoir ? La biche meneuse, la femelle la plus âgée, la grand-mère des grands-mères ?
En fait, il existe bien une femelle qui apparemment guide la troupe des biches dans le pâturage et dans les boisements. Mais chez toutes les espèces animales, la femelle dite meneuse n'est jamais la chef. Elle est juste une meneuse provisoire. Elle peut changer, ça ne peut pas toujours être la même, et ça change évidemment avec le temps. Par exemple, les scientifiques ont montré que dans la société des lionnes, eh bien, il y a là une alliance parfaitement égalitaire. Certes, il y a une femelle âgée qui peut plus ou moins indiquer la route ou entamer la chasse, parce qu'elle a d'expérience. Mais ça peut changer à tout moment, et ce leadership est parfaitement provisoire.
Et cela est vrai chez beaucoup d'espèces animales. Est-ce qu'il existe beaucoup d'organisations de ce type matrilinéaire ?
Oui, matrilinéaire, c'est-à-dire l'organisation familiale est à la base, et chez la plupart des vertébrés qui vivent en groupes sociaux, en troupes sociaux, ben c'est matrilinéaire et égalitaire. Les pseudo-chefs sont en fait juste des individus qui vont dire bah, « Tiens, si on est au cinéma ce soir », et les autres disent bah, « Pourquoi pas ?» Mais c'est pas plus que ça. Prenons par exemple les girafes. Elles forment un rassemblement de cellules familiales, mais sans dominant ni dominante. Chacune peut quitter le groupe comme elle veut, quand elle veut, et aller dans un autre groupe. En tout égalitarisme. C'est ce qu'on appelle des sociétés de type fission-fusion. On casse le groupe, on revient dans le groupe et on refusionne. Une girafe s'associe librement ou décide de repartir selon ses besoins et selon sa volonté propre. Les mâles, eux, restent juste des invités au sein de la troupe des femelles qui s'assemblent pour protéger les jeunes. Toutes les recherches scientifiques modernes le confirment. Il s'agit là d'un modèle reproducteur commun chez tous les mammifères supérieurs et chez de nombreux autres animaux. On le trouve chez les singes, chez les gazelles, les girafes et les mangoustes pourraient même être qualifiés de libertaires.
Les hommes que j'aime ne sont pas là. Les hommes que j'aime ne restent pas. Les hommes que j'aime sont tous mariés ou bien planqués, ont peur d'aimer. Oh, aïe, 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 mon Dieu, quel travail de réunir nos cœurs séparés. Les hommes que j'aime sont des enfants. Les hommes que j'aime cherchent une maman. Les hommes que j'aime se sentent seuls face à eux-mêmes. Ils se bourrent la gueule, se jouent du temps. Car j'aime sont des gens bien. Les hommes que j'aime font leur chemin. Les hommes que j'aime sentent le vide au fond de mer. Ils font le plein de tout, de rien.
Vous écoutiez Les Hommes que j'aime, Corinne Marienneau. Vous voilà invité à écouter une radio associative pas comme les autres. Nous sommes sur 89.4, Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, une radio sans maître, sans Dieu et sans publicité, dans une émission de Science sans liberté et toujours pour comprendre ce qu'est une société matriarcale.
Eh oui.
Et nous voilà revenus sur notre sujet du jour, donc les sociétés matriarcales entre biologie et anthropologie pour évaluer leur importance dans la nature, mais aussi pour imaginer quel est le premier système qui ait connu l'humanité.
Oui, les recherches scientifiques ont donc révélé que loin de tous les modèles qui étaient supposés, des modèles animaux supposés, les sociétés animales sont typiquement matrilinéaires et le plus souvent égalitaires. Mmh. Mais si on veut s'approcher du fondement biologique de la vie sociale, y compris chez les humains, on peut aussi se référer à des animaux plus proches de nous, et notamment les autres primates.
Justement, chez les singes, les sociétés paraissaient bien organisées sous la coupe d'un mâle dominant. On en parle chez les babouins, encore chez les gorilles par exemple.
Alors c'est vrai qu'avec les singes, on a vraiment l'impression que l'organisation sociale semble se faire selon une apparente structure patriarcale et dominante avec un grand mâle qui aurait un harem. Les femelles se rassembleraient sous la domination de ce grand mâle dans un groupe qui serait souvent très hiérarchisé avec des bagarres, des batailles permanentes. Mais regardons d'un peu plus près. D'abord, ce n'est pas le cas chez tous les singes, et en plus, même chez les singes chez qui cela a été décrit, ça peut être parfaitement contestable. La telle noire, par exemple, ou le quatta, ou le singe araignée, qui vit en Amérique du Sud. Il se déplace en petits groupes de quelques individus, d'une 5 à 20 à peu près, mais c'est surtout une femelle expérimentée qui va permettre de constituer le groupe, car il faut connaître les ressources dans ces vastes territoires forestiers. Et c'est donc cette expérience de la femelle qui va faire la différence. Les mâles, comme chez les cervidés tout à l'heure, vivent en général à l'écart de la petite troupe et la suivent. Parfois, ils peuvent se mêler et participer. Mais on voit que l'organisation n'est pas différente de ce qu'on a décrit tout à l'heure. Comme dit la biologiste Sarah Ardry, les femelles sont des résidentes permanentes au sein des groupes sociaux, alors que les mâles ne sont que de simples visiteurs de passage.
Oui.
La société des singes est d'abord constituée du rassemblement des femelles. Ensuite, il y a un ou plusieurs mâles qui vont entrer en rivalité et écarter les autres mâles. Non pas pour diriger la troupe, mais pour disposer des possibilités de copulation quand les femelles deviennent réceptives. Les mâles restent donc dans la troupe, plutôt pour écarter d'autres mâles que pour d'autres raisons.
Oui, mais l'organisation sociale reste quand même aux mains des mâles. Alors, ce sont des troupes sous la dépendance de patriarches.
Alors, en fait, non, car les mâles rivalisent entre eux pour écarter les autres mâles par leur comportement de dominance. Ils peuvent évidemment essayer aussi d'harceler les femelles et de contester le fait qu'elles puissent aller voir ailleurs, mais le plus souvent, en fait, ces mâles n'ont pas un pouvoir total. Si on prend les gorilles, par exemple, la base de la société des singes reste la coédition des femelles qui va réunir des cellules familiales élargies aux cousines et aux tantes. Mmh. Et le gorille chef, lui, va en quelque sorte intervenir pour protéger l'ensemble. Oui. L'alliance des femelles permet donc de résister à la menace d'infanticide par les autres mâles. Le pacte social des femelles et leur étroite collaboration va donc être la base, et ça va même être ce qui va structurer toute la société des singes.
Alors ça veut dire que quand les mâles semblent dominer, l'organisation sociale donc dépend encore des femelles. Mais pourquoi les femelles se rassemblent alors? Pourquoi acceptent-elles des mâles dans le groupe?
Là encore, les patriarches vont être tolérés pour deux raisons principales. La première raison, parce que l'évolution de leur rivalité entre eux a entraîné que les mâles sont souvent plus grands et plus forts. Et donc, il est souvent plus difficile pour les femelles de les écarter. Eh oui, c'est toujours comme ça. La seconde raison, c'est que les mâles vont diminuer le risque de harcèlement qu'encourent les femelles. En réduisant le nombre des autres mâles dans la troupe, ou en restreignant les sollicitations sexuelles des autres mâles, évidemment, ils vont réduire les risques pour les femelles.
Mais finalement, cela permet aux femelles de jouer avec les concurrences entre mâles, mais en même temps, elles les intègrent dans leur société.
Oui, l'intégration sociale des mâles se fait en admettant malheureusement la dominance de l'un d'eux. Alors une dominance provisoire et une dominance sur les autres mâles. C'est pas un chef, c'est juste à un moment donné un type qui est un peu plus fort que les autres et qui dit « moi pour le moment, c'est moi qui ai les relations ». Mais ça conduit quand même à des relations plutôt tendues chez de nombreux singes. Alors chez les chimpanzés, par exemple, qui ont souvent des relations très très difficiles, eh bien les femelles vont diminuer la puissance des mâles avec un moyen tout simple, elles vont copuler avec tous ceux qui demandent de copuler. Cela réduit le risque d'infanticide, parce que du coup le mâle, même dominant, il ne sait jamais s'il n'est pas en train de tuer ses propres enfants.
Ouais.
C'est une stratégie de libertinage qui va être poussée à l'extrême chez un autre singe que tout le monde connaît bien ici, les bonobos. Chez les bonobos, les études biologiques montrent que la majorité des rapports sexuels entre bonobos n'ont pas d'objectif reproducteur, mais ils ont un rôle social,
voilà.
Ce qui explique que tous les bonobos soient bisexuels. Les scientifiques nomment cette méthode d'accouplement le sexe convivial dans des sociétés dites de promiscuité. Ici, quand tout le monde copule avec tout le monde, eh bien évidemment, on ne sait plus qui est l'enfant de qui, et donc tout le monde est obligé d'être plus ou moins apaisé. Les combats vont donc se réduire à des moments de la rivalité. La société des bonobos est donc structurée de manière parfaitement matrilinéaire parce que les femelles sont disponibles pour autoriser la plus grande liberté sexuelle.
Elijah was a wooden Indian standing by the door. He fell in love with an Indian maid over in the antique store. Elijah just stood there and never let it show. So she could never answer yes or no. He always wore his Sunday feathers and held a Tommy Hall. The maiden wore her beads and braids and hoped someday he'd talk. Elijah, too stubborn to ever show a sign, because his heart was made of knotty pine. Oh, Elijah, he never got a kiss. Oh, Elijah, he don't know what he missed. Is any wonder that his face is red? Elijah, that poor old wooden head. You never went nowhere. His heart was set on the Indian maid with the coal black hair. Elijah just stood there and never let it show, so she could never answer yes or no. And then one day a wealthy customer bought the Indian maid and took her oh so far away, but old Elijah stayed. Elijah just stands there as lonely as can be and wishes he was still an old pine tree. Oh, Elijah, he never got a kiss. Oh, Elijah, he don't know what he missed. Is there any wonder that his face is red? Elijah, that poor old wooden head.
C'était ce brave Hank Williams qui nous chantait Cow Liga et tous ses malheurs.
Nous avons parlé donc des rassemblements animaux, comme des groupes matrilinéaires, de la gynarchie, du patriarcat. Il faudrait maintenant clarifier tout ça. Donc, la gynarchie, ce sont des femelles au pouvoir, comme chez les hyènes. Le matriarcat, c'est le pouvoir des mères. Et le patriarcat, c'est le pouvoir des pères élargis aux mâles.
Alors, depuis des millions d'années, il faut se rappeler,
Les éléphants, les lions, les cerfs, les singes vivent dans des sociétés de type matrilinéaire. Ça veut dire que tu t'es organisé autour du groupe familial, la femelle et les jeunes. C'est un mode qui structure des relations entre les mâles et les femelles, mais surtout, ça structure les relations entre les générations. C'est donc l'association de ces unités familiales et donc l'association des femelles qui va construire la base de la vie sociale. On a plusieurs groupes, femelles et jeunes, qui s'associent ensemble et ça forme le troupeau. Les jeunes qui vont naître dans le groupe des femelles vont donc hériter en commun de tous les avantages du rassemblement et du fait de vivre en groupe. Par exemple, le domaine exploité ensemble. C'est au moment de l'indépendance sexuelle des mâles que les mâles vont rivaliser entre eux et souvent ils vont quitter le groupe pour former des clubs d'adolescents, des clubs de célibataires et de mâles subadultes. Au cours dans ces clubs, ils vont apprendre la rivalité, parfois ils peuvent vivre solitaires, et c'est ensuite qu'ils vont être invités en tant qu'adultes reproducteurs dans la société des femelles. Alors là, en tant qu'adultes reproducteurs, ils peuvent prendre un petit peu le pas pour essayer d'écarter les autres mâles et devenir en quelque sorte des patriarches apparents, mais ça durera qu'un certain temps, jusque le temps qu'un autre mâle vienne les enlever de là. Et ils n'ont pas plus de pouvoir que cela, ce sont toujours les femelles qui vont générer les mouvements, les déplacements et qui vont organiser la vie sociale. On est donc bien en présence de sociétés matrilinéaires et égalitaires.
Mais alors les sociétés patriarcales, elles existent ou pas chez les animaux ?
Alors, toujours en essayant de clarifier les mots, si on a une organisation patriarcale, ça suppose que les pères domineraient la vie sociale, que le pouvoir serait donc exercé pour les mâles de la génération suivante. Ce pouvoir est donc directement issu d'un problème majeur qui est celui de la paternité. Et ce seraient les femelles qui du coup quitteraient le groupe pour être admises dans un autre groupe. Donc, dans un groupement patrilinéaire, ça pourrait devenir patriarcal, mais c'est assez rare parce que, tout simplement, si la maternité ne fait souvent aucun doute dans les sociétés matrilinéaires, la paternité, elle, reste souvent inconnue pour les mâles.
Eh oui.
La paternité peut être présumée si le mâle vit avec la femelle et s'il la surveille suffisamment pendant une part importante de la gestation. On appelle ces méthodes d'accouplement plus ou moins monogames des périodes de mate guarding. Le mâle va garder la femelle. Et donc il y a ainsi des patriarches apparents, des pachas, mais leur rôle provient principalement de la rivalité entre mâles pour copuler, mais non pas du tout un rôle sur l'organisation sociale proprement dit.
Mais un mâle tyrannique peut s'emparer des femelles en quelque sorte et leur imposer sa loi.
Parfois, mais c'est rarement un rôle social. C'est plutôt une conséquence de la concurrence sexuelle et puis de la tyrannie propre à un individu particulier. En fait, pour que le patriarcat existe, ça ne peut débuter qu'avec la paternité pour un héritage. Dès lors que les femelles rendent la paternité incertaine ou invisible, par exemple en copulant avec plein d'autres mâles, ou en partant quelques jours, ou encore en ayant une gestation secrète, eh bien, les mâles sont dans l'ignorance de qui est leur progéniture. La paternité reste seulement supposée, et donc le patriarcat ne peut pas vraiment exister dans le monde animal.
Alors, et l'humain dans tout ça ? Et si on ne trouve pas trace dans la nature sauvage, alors d'où vient le patriarcat ?
Alors là, chez l'humain, on n'a pas trop de doute qu'il y a bien entendu des sociétés patriarcales. Mais pour que le patriarcat se développe, il faut des conditions particulières. Il faut notamment un père qui va connaître sa progéniture. Quand c'est paternel, on peut avoir l'ordre des pères, on peut avoir du pouvoir. Pourquoi ? On peut imaginer que tant que les mères, les tantes et leurs filles vivent en communauté féminine dans un lieu donné pour élever des enfants, la civilisation va forcément rester matrilinéaire. Le lieu est stable, c'est celui où les femmes se partagent les tâches et où les différentes générations se retrouvent. Les pères ne sont alors que des visiteurs de la communauté des femmes et ne connaissent pas leurs enfants. Ils ne connaissent pas leur paternité, leur paternité n'intervient pas dans le groupe social. Ils peuvent aussi bien rester ou aller à la pêche, ça n'a pas d'importance. La séparation des activités n'est même pas obligatoire, car ce qui compte, c'est que le domaine est à tout le monde et reste le seul lieu stable de la communauté matrilinéaire. C'est seulement quand un père a décidé de s'approprier le domaine fréquenté pour en faire un héritage ou en faire des marchandises que le problème commence. Car au lieu d'une communauté, le père va réserver la propriété pour lui et pour ses fils. Cela intervient à la mode de la féodalité. Du coup, le père s'arroge aussi le pouvoir sur la communauté des femmes. Il va leur interdire de disposer de tout ce dont la communauté possède. Et après, pour ne pas morceler le domaine, c'est son fils aîné qui va hériter du domaine. Alors parfois, ça peut être une fille aînée, mais ça ne change rien au problème, car le patriarcat peut parfaitement admettre des femmes si elles se comportent et suivent évidemment les mêmes lois que les hommes.
Et donc, c'est parce qu'il est le père et qui sait qu'il est le père, qu'il est le pouvoir, et donc il prend le pouvoir. Et donc là, se termine le matriarcat.
Voilà. La paternité, c'est le début du patriarcat. En tout cas, ça en paraît le début. Car le patriarcat, c'est un ordre des pères. Mais cet ordre des pères va en plus développer un pouvoir des hommes. C'est-à-dire, il va développer une phallocratie.
Ouais.
Comme le père est placé au-dessus de tout le monde, et qu'il va être, en quelque sorte, obligé, pour garder sa paternité, de surveiller la famille va apparaître, et elle devient une structure fondamentale sous la domination du père. Il peut alors légitimer ce coup de force par le besoin de défendre tout le monde contre des ennemis plus ou moins existants. Et du coup, le patriarcat va instaurer une famille totalement linéaire et hiérarchique où va régner la loi du plus fort, c'est-à-dire la loi du père.
Voilà.
La paternité reconnue va donc conduire à la propriété de tout l'ensemble des choses que possède la communauté. Et tout commence parce qu'il y a la propriété privée. Quelque chose de marchand à redistribuer, quelque chose à hériter, dont le patriarche va s'emparer. On peut par conséquent supposer que c'est un élément de la société qui ne peut vraiment apparaître que en même temps qu'il y a eu de la propriété privée, qu'il y a eu le monde marchand ou qu'il y a eu la féodalité, et sans doute tout ça au néolithique.
Kayouani, kayoué, kayouani, kayoué, weiyo, hawi, hawi, ne, gai, na, we, ha, he, ya.
Kayouani, kayoué, kayouani, kayoué, weiyo, ho. Howi howi ne ka na we ahe ya.
Kayu wani kayu we, kayu wani kayu we, we hi yo ho. Howi howi ne ka na we ahe ya.
Kayu wani kayu we, kayu wani kayu we, we hi yo ho. Howi howi ne ka na we ahe ya.
Kayu wani kayu we, kayu wani kayu we, we hi yo ho, howi howi ne ka na we ahe ya.
Kayu wani kayu we, kayu wani kayu we, we hi yo ho, howi howi ne ka na we ahe ya.
Kayu wani kayu we. Kayu wani kayu we, we hi yo ho, howi howi ne ka na we ahe ya.
Kayu wani kayu we, kayu wani kayu we, we hi yo ho, howi howi ne ka na we ahe ya.
C'était un chant iroquois traditionnel, Kaouanita. Et donc, évidemment, pourquoi Iroquois ? Parce que nous allons parler des sociétés matriarcales actuelles. Vous êtes toujours sur 89.4, Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, et nous parlons toujours du matriarcat.
Donc après avoir évoqué les animaux qui font du matrilinéaire sans le savoir et sans complexe, nous en étions à découvrir le patriarcat. Il y a d'ailleurs donc, des anthropologues, des scientifiques ou des sociologues qui décrivent la société patriarcale comme une société naturelle à l'origine de la civilisation humaine. Ça.
Eh oui, c'est souvent le cas, hein. On nous prend toujours pour des billes. C'est Claude Lévi-Strauss qui est le premier à développer cette idée, entre 1949 et 1967. Il a développé la théorie qui est la plus complète sur le patriarcat original, et c'est une thèse qui est typiquement anti-matriarcale.
Il n'a pas dit ça, il a pas dit que les sociétés ont toujours été patriarcales.
Si, c'est sa thèse fondamentale.
Ah, voilà.
En fait, la théorie de base, c'est la théorie de l'alliance, qu'on appelle aussi la théorie générale de l'échange. Et cette théorie de l'échange stipule que toutes les sociétés sont fondées par un truc très simple, l'interdit de l'inceste.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est fondé sur le fait qu'on ne puisse pas faire autrement. Et comme le mariage et l'échange des femmes font partie du processus, l'interdit d'inceste est la base, le mariage et l'échange des femmes en sont les conséquences. Alors, il a écrit ça dans son livre qui s'appelle « Les structures élémentaires de la parenté », dans lequel il dit que la prohibition de l'usage sexuel de la fille ou de la sœur va obliger l'homme à donner sa fille ou sa sœur en mariage à un autre homme. En même temps, ça va créer un droit sur la fille ou la sœur de cet autre homme. On dit en quelque sorte qu'on refuse une femme à soi-même et qu'on l'offre sachant qu'en contrepartie, il sera rendu une autre femme, une nouvelle femme.
Voilà. Comme une marchandise, quoi.
Comme une marchandise. La théorie de l'échange, c'est donc par principe totalement antimatriarcale, puisque la société se fonde évidemment sur les bases de cet échange particulier, et évidemment une société ne pourrait pas être matriarcale, puisque ce qui fonde la société, la culture pour les Strauss, c'est l'échange des femmes par les hommes. C'est-à-dire que c'est l'énégation des femmes en tant qu'êtres vivants sociaux pour en faire des choses d'échange, de vulgaires marchandises. Mmh. Du coup, évidemment, Lévi-Strauss prétend que le mariage, que la paternité, que la soumission et que la marchandisation des femmes ont toujours existé, puisque c'est ce qui fonde l'ordre bourgeois actuel, mais c'est aussi ce qui fonderait toutes les civilisations depuis la nuit des temps. Le patriarcat existerait de toute éternité. Mais attends, Lévi-Strauss, c'est pas le seul auteur à dire tout ça. Il y a beaucoup d'auteurs qui, dans ces années-là, ont développé cette idée, qui avait été au départ définie par Freud avec l'idée de l'interdit de l'inceste.
Ah, oui.
Sur la base de l'interdit de l'inceste, par exemple, Françoise Héritier, qui, elle, se dit féministe, elle explique même que si les femmes sont ainsi réduites par les hommes à un certain esclavage, c'est à cause du dimorphisme entre les hommes et les femmes, qui fait que les hommes, grâce à leur domination patriarcale qui existerait depuis la nuit des temps, ont réussi à prendre les bons produits, etc. Ils sont devenus plus grands. Alors elle dit texto, les produits bons, la viande, étant réservés prioritairement aux hommes, cette pression de sélection a entraîné des écarts de taille et de corpulence entre les hommes et les femmes. On voit qu'elle fait carrément ici appel à du darwinisme social pour expliquer la vie sociale. Toujours sur le même fondement. Et même si on prend quelqu'un de plus moderne, comme Alain Testard, il va tenter de démontrer que le matriarcat, lui non plus, n'a jamais existé, en montrant que toutes les sociétés sont fondamentalement basées sur cet interdit de l'inceste et surtout sur l'échange des femmes. Et puis évidemment, Freud allait lui aussi dans le même sens avec sa théorie de la harde primitive, mais c'est une théorie qui était beaucoup moins reconnue à l'époque, cette théorie fondée sur le tabou d'inceste.
Donc les anthropologues ont donc défini que la société patriarcale était originelle en se basant sur l'idée que la société est fondée par les hommes pour échanger des femmes entre eux.
Voilà. C'est ça la théorie d'échange, c'est coton hein, quand même, hein, mais c'est la théorie d'échange de Lévi-Strauss. Ah ouais. Et c'est cette théorie de l'échange qui a fondé ce qu'on a appelé le structuralisme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un point de vue parfaitement masculin, ça affirme que la société trouverait son fondement dans le besoin d'échanger les femmes du groupe. Les femmes sont en quelque sorte une marchandise sexuelle, on va se l'échanger, et voilà. C'est très très machiste comme point de vue. C'est d'ailleurs bizarre que ça n'ait pas frappé les anthropologues actuels, que ce point de vue était quand même largement inspiré par une idéologie. Non seulement c'est machiste, mais c'est probablement faux. Car quand on regarde les sociétés humaines, cette idée que les femmes soient échangées pour construire de la société ne semble pas tout à fait vraie, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, il y a d'abord, par exemple, le mythe des Amazones, qui repose sur l'existence d'une société qui était les sauromates, et dans lequel les femmes disposaient déjà du pouvoir social. Mais il est vrai qu'on connaît encore très mal comment étaient organisées les sauromates et la plupart de ces sociétés
archaïques. Ça reste des mythes.
Voilà. C'est plus que le mythe, on a des bases, mais on a quand même très peu de données. Et puis, du point de vue de la situation des femmes, on sait aussi que, si on regarde la plupart des sociétés premières, des sociétés dites primitives parfois, comme par exemple les Bushman du Kalahari, enfin le peuple Kong, les Pygmées par exemple, les Mbouti d'Afrique centrale, les Indiens Cree par exemple, qui vivent encore actuellement, ou les indigènes des îles Adaman, eh bien dans tous ces cas-là, c'est bien difficile d'identifier une quelconque domination masculine. Alors un petit mot sur les cris est nécessaire parce que Claude Lévi-Strauss a quand même eu des petits problèmes en découvrant ce cas unique de polyandrie.
Il se contredisait du coup.
Il se contredisait complètement. Les cris, ce sont des Indiens qui vivent dans les montagnes rocheuses en Amérique et la langue est une des langues les plus parlées. Je crois qu'actuellement, il doit y avoir plus de 300 000 cris en fait encore au Canada. Ce qui les a surtout étonnés, c'est le fait qu'il y ait un mariage polyandrique. Alors la polyandrie, c'est encore autre chose.
C'est autre chose. Donc c'est les femmes qui peuvent se marier avec plusieurs hommes,
voilà,
c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Ouais. Les femmes peuvent avoir plusieurs maris en même temps. Et puis en plus, elles pouvaient être lesbiennes, qui ne cache rien.
Ça, c'est pas mal.
Voilà, c'est pas mal. Et évidemment, ce spectacle particulier de femmes qui pouvaient se prendre plusieurs hommes, qui pouvaient coucher ensemble, ça a beaucoup choqué.
Ça devait choquer à l'époque.
Les coureurs de bois, comme on disait à l'époque, qui fréquentaient ces Indiens-là.
Mais du coup, c'est pareil, la paternité n'était pas importante, alors, du coup, puisqu'on ne savait pas lequel est...
Les femmes, en faisant cela, en couchant avec à peu près tout ce qui pouvait, empêchaient en effet qu'il y ait des pères reconnus. Et donc, évidemment, elles avaient un nombre important d'époux. Et ces époux étaient principalement là pour aider, en quelque sorte, à la redistribution des différents matériaux, des différentes choses qu'elles pouvaient avoir, puisque ce sont, à l'époque, le nombre d'hommes qui permettaient à la femme de s'occuper du maximum d'enfants. Donc c'était quelque chose d'assez étonnant. Alors on ne sait pas trop comment encore tout se passait chez les Aniakris, mais c'était un matriarcat assez puissant qui doit encore un peu se perpétuer maintenant. D'ailleurs, on n'a pas appelé ça ni matriarcat ni polygamie,
mais on a appelé ça... Donc, du coup,
on a appelé ça matagamie. Matagamie. Oui, pour contracter à la fois la polygamie et le matriarcat, puisque c'était assez étonnant. Et donc, c'est connu de l'époque. Alors, évidemment, pour les moines de l'époque, on disait que ces femmes qui osaient s'afficher avec plusieurs époux et forniquer bestialement à tour de rôle étaient maudites de Dieu.
Mais du coup, elles pouvaient se marier. Donc là, il y avait un mariage. Donc là, le mariage existait. Donc, elles pouvaient se marier avec plusieurs hommes. Mais est-ce qu'elles pouvaient se marier avec des femmes
entre femmes, le lesbianisme était parfaitement reconnu. De même d'ailleurs que l'homosexualité des hommes, ce qui faisait qu'on pouvait effectivement avoir des petits groupes familiaux qui étaient très étendus. En quelque sorte, on remplaçait l'hypothèse de la relation monogamique sexuelle avec une relation qui était, on va dire, plurielle et qui effectivement a complètement modifié le point de vue sur cette société particulière. Mais on le voit, le matriarcat est riche de beaucoup, beaucoup de cas et de différences.
Donc on les appelait les sauvagesses, non, c'est ça ?
C'est ça, voilà.
Mais du coup, quand c'est un homme qui a plusieurs femmes, on ne dit pas que c'est un sauvage. La polygamie est tout à fait normale, mais dans l'autre sens, c'est sauvage.
Là, c'était aussi quand même avec des vrais sauvages amérindiens pour les Français qui les ont décrits. Il n'existe en tout cas aucune corrélation entre les systèmes sociaux et l'interdit de l'inceste.
Ainsi, il existe bien des sociétés sans domination masculine. Alors, ce n'est pas le mariage et l'échange des femmes qui est à la base de la société.
Et non, l'échange des femmes est un mythe. Tout d'ailleurs comme le tabou de l'inceste. S'il n'y avait pas des lois pour l'empêcher, ça pourrait parfaitement avoir lieu. Mmh. C'est pas du tout le problème. L'échange des femmes, c'est un mythe qui permet de fonder des sociétés bourgeoises, mais sûrement pas d'expliquer la réalité du monde. Prenons par exemple les Iroquois du Canada. Alors ils ont été étudiés par Eleanor Burke, Leacock, et c'est une société typiquement matrilinéaire. La constitution iroquoise dit même que la descendance se fait par le lien maternel, et que ce sont les femmes qui sont à l'origine de la société. Chez les Amérindiens iroquois, les femmes s'occupent des enfants, elles s'occupent des maisons, elles s'occupent des terres, elles gèrent la société, elles prennent leurs décisions, et peuvent même opposer des vétos à des décisions, y compris à des décisions comme la guerre. Mmh. Ce sont ce qu'on appelle souvent des matrones, et elles vivent dans ce qu'on appelle la longue maison, c'est là où elles vont contrôler la répartition de la nourriture, la répartition des champs, la répartition des activités. Les femmes forment une communauté, et avec les enfants, et ces relations sexuelles entre les femmes et avec les hommes sont parfaitement libres. C'est justement parce que l'organisation sexuelle y reste très libertaire que le matriarcat va s'instaurer. Par exemple, la première chose que vont construire les Iroquois en arrivant dans un lieu donné, c'est ce qu'ils appellent la maison des alliances. Alors la maison des alliances, c'est une maison qui sert à rien. C'est une bâtisse, enfin qui sert à rien, ça sert à beaucoup de choses. Mais elle a été construite non pas pour abriter quelqu'un, mais pour abriter quelque chose. Ouais. C'est une bâtisse dans laquelle les femmes vont venir retrouver en cachette les hommes pour avoir des relations sexuelles sans se préoccuper de qui va avec qui. Chacun copule le plus librement possible. C'est aussi là que les jeunes adultes vont apprendre les bases du comportement sexuel et ils peuvent y aller avec qui ils veulent. Et cette éducation totalement libre empêche évidemment que les pères puissent s'emparer d'un pouvoir totalement illusoire.
Donc chaque femme a chacune sa maison.
Non, il y a une maison générale qui s'appelle la maison des alliances, dans laquelle tout le monde va, et il y a plein de petites pièces dedans, et chacun prend sa petite pièce, sa petite couverture tranquille, et chacun fait ce qu'il veut, dans la discrétion la plus totale. Mais surtout, c'est cette liberté sexuelle qui va permettre, évidemment, d'arriver à cette situation particulière d'une vie matriarcale.
J'avais des poils sur le torse, si dans mon jean ça faisait une bosse, si j'avais du poil au menton, mais pas comme Suzanne Boyle, non, comme un garçon, si mes poils sous les bras étaient acceptés, s'ils étaient un gage de ma sexualité, dans ma vie j'aurais beaucoup moins d'embrouilles. Si aussi, aussi j'avais des couilles, ouh, 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 j'aimerais pouvoir pisser debout. C'est debout. Être un homme, c'est beaucoup plus économique. À 3,50€ le paquet de serviettes hygiéniques. Et les capotes sont distribuées gratos dans la rue. Alors que ma pilule n'est même pas remboursée par la sécu. À 45 ans, je pourrais devenir un vieux beau. Alors que là, à 30 ans, je serais déjà une vieille pour refaire sa vie. Avec une jeune bimbo, c'est quand même plus glamour que de se payer des gigolos. Ouh, 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 j'aimerais pouvoir pisser debout. Pisser debout. Ouh, 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 j'aimerais pouvoir pisser debout. Pisser debout. Plus besoin de m'accroupir comme une clodo entre deux. Je pourrais en toute impunité pisser contre un mur. Plus de col enfilé, plus de cire orientale, plus de mascara qui coule, plus de frottis vaginales. Comme Mylène Farmer, j'ai posé cette question. J'ai dit, dis maman, pourquoi je suis pas un garçon? Ma mère m'a répondu que j'étais encore pire que ça. Vulgaire comme un mec, bête comme une fille, je suis les deux à la fois. J'aimerais pouvoir pisser debout, pisser debout, ouh, ouh, j'aimerais pouvoir pisser debout, pisser debout. Moi si j'étais un homme, je serais la capitaine d'un bateau, non, j'irais plutôt me taper des buts à porte-maillot. Je remplacerais la salade sans sauce par une choucroute saucisse, j'aurais plus l'obsession de la 36, je pourrais faire l'amour tous les jours du mois. Je serais capable de monter en meuble Ikea. Je serais plus une traînée et deviendrais un Don Juan. Oh si j'étais un homme, si seulement, ouh, si seulement je pouvais pisser debout. Pisser debout, ouh, ouh, j'aimerais tellement pisser debout.
Voilà, c'était Gidré, pipi debout.
Vous êtes, nous sommes sur 89.4, Radio Libertaire, la radio sans maître, sans dieu et sans publicité, et dans une émission faite pour les cortiquets du bulbe, science en liberté.
Et voilà, après tous ces épisodes de recherche, nous allons attaquer la question des mozos.
Ouais.
Alors, on peut dire qu'il existe des sociétés matriarcales dans le monde, ça, on a vu qu'il en existait. Mmh. Mais voyons ce qui se passe chez les mozos. Donc, c'est une civilisation qui a été décrite en 1924 par Joseph Rock, n'est-ce pas, Chris ?
Oui, justement. Donc, les mozos, c'est une société avant-culaire. C'est-à-dire que les enfants sont éduqués par l'oncle maternel, qui devient donc le père social et non biologique. Les mozos, ils sont donc à peu près établis dans une zone de l'Himalaya particulièrement difficile, hein, à la frontière des provinces chinoises, du Yunnan et du Sichuan. Ce qui peut expliquer que leur mode de vie a été protégé par justement cet isolement. C'est une société donc matrilinéaire, hein, tout se transmet par la mère. Il n'y a pas de père, pas de mari, pas de mariage. Alors le mot père, le mot père n'existe même pas dans la langue mozo. Donc il n'y a pas, pas de père, pas de mari, pas de mariage, et toute la descendance de la lignée maternelle reste vivre chez leur mère toute leur vie, sur plusieurs générations.
Et les jeunes, grand-mère, tout ça ensemble. Quoi.
Voilà, c'est un peu comme chez les Iroquois. Donc les jeunes prennent soin des anciens aussi, donc pas de lien tante, nièce, tante, neveu. Et donc toutes les mères appellent leurs fils, filles, fils, même si les enfants sont d'une autre femme.
Ah oui, c'est tout à fait matriarcale. Voilà. Et donc ce sont les femmes qui vont mener toute l'organisation de la société des Mozos. Les hommes, ils obéissent alors ?
Ah ben, tout à fait. En fait, ils prennent pas de décision, les hommes. C'est comment que ça, les femmes qui prennent les décisions. En fait, il y a quand même des partages des tâches, quand même, entre les hommes et les femmes.
Tu me rassures.
Donc, les femmes s'occupent plus des affaires intérieures hein, et les hommes des affaires extérieures. Eux, c'est les relations avec le voisinage, ils font les travaux avec la terre et du bétail. Mais s'il y a une décision à prendre, ils vont faire appel aux femmes quand même. Donc, les hommes, justement, se réalisent surtout en tant qu'oncle et frère. Donc, la chefferie de famille est assurée par une femme. Donc, les aînés donc, ayant plus autorité que les cadets, donc il y a une petite hiérarchie à ce niveau-là. Et cette femme d'expérience, en général, a à peu près une quarantaine d'années, elle aura un pouvoir économique.
Bigre, bigre. Et alors, la question d'importance du point de vue sexuel, comment tout ça, ça se passe ?
Alors, il n'y a pas de maison comme chez les Indiens qu'on a passé. Donc, il n'y a pas de couple, il n'y a pas de jalousie. Quand ils disent jalousie, c'est que quand il y a de jalousie, ils appellent ça boire du vinaigre. Hein. Il n'y a pas de possessivité non plus. Hommes et femmes peuvent avoir autant de relations sexuelles qu'ils le désirent et changer de partenaire autant de fois qu'ils le désirent. Mais bien sûr, donc, l'inceste matrilinéaire est proscrit. Donc, les amants sont choisis par les femmes, mais plus l'amant vient de loin, plus le prestige de la femme est grand. Donc toi, si tu veux voir un monceau, voilà, tu viens de loin, ça sera prestigieux, tu vois. Ça, c'est bien. Hein. Donc ceci permet donc d'éviter toute consanguinité, bien sûr.
Un bon échange des gènes, bien sûr.
Mais un homme peut passer la nuit. Alors il passe la nuit chez la femme, mais il doit la quitter avant le lever du soleil.
Oh, flûte, pas de grasse matinée.
Voilà. Pas de grâce manidée. Un homme mosso a des droits dans la maison de sa mère, mais pas dans la maison de son amoureuse. Ah. De toute façon, ce qui est marrant, c'est que les mossos pensent que le but de la femme, c'est d'avoir du plaisir ou des enfants.
Au choix.
Cas, au choix. Celui de l'homme est à la fois de s'amuser, de faire acte de bienfaisance vis-à-vis de la femme et de s'aligner en l'arrosant.
D'accord, cette société matriarcale, alors elle existe encore de nos jours, hein, c'est ça qui est intéressant en Chine, mais évidemment, ce n'est pas sans poser des graves problèmes, car ces relations sont assez difficilement conciliables avec l'esprit chinois, avec le patriarcat traditionnel de l'État communiste chinois. Mmh. Et donc, comment est-ce que tout ça se passe ?
En effet, le père de l'enfant doit être déclaré, et c'est le mariage qui définit la paternité en Chine, ne serait-ce que pour bénéficier des prestations d'État ou par rapport à l'école. Mais ça ne dérange pas les mossos. Ils utilisent l'administration pour qu'elle délivre des certificats de mariage pour une simple visite furtive.
Ah oui, donc le gars, il vient une fois, mais paf, il a le droit au mariage.
Voilà, donc ça arrange, quoi.
Ah oui.
Donc la mère doit déclarer un géniteur officiel à la naissance de son enfant, mais souvent, elle indique donc que l'oncle maternel,
c'est la société à vaincre.
Qui est déclaré. Donc voilà. Comme en Chine, la politique de l'enfant unique limite les naissances, les mossos obtiennent leur carte d'identité à 18 ans, ce qui permet aux femmes d'échanger leur bébé excédentaire.
Ah oui, d'accord.
Donc, magouille, quoi.
Hein. Quand elles ont des bébés en trop, effectivement, elles peuvent faire croire que tout le monde en a qu'un, quoi. C'est ça l'idée de l'enfant unique. Bon, et pourtant, il faut bien reconnaître que dans nos États, les mossos restent une exception qui progressivement perd cette organisation coutumière. Parce que le patriarcat, et on va encore en parler après, mène une vraie guerre contre toutes les sociétés matrilinéaires.
Eh oui, malheureusement, déjà la propagande chinoise, donc elle est redoutable avec des campagnes à la télé, sur Internet, dans les magazines, au cinéma. On leur explique tous les bienfaits du mariage, l'utilité d'avoir un père naturel, un mari.
Oui, parce que même en Chine, le mari a une importance capitale, on organise des mariages et,
voilà.
Et évidemment, c'est ces grandes statues au mariage qui commencent à prendre de l'importance.
Tout à fait. Et donc on les incite à la fidélité conjugale et donc à la jalousie, donc quelque chose qui vient pas naturellement chez eux, on leur oblige à c'est complètement dingue, quoi. Et ça contamine.
Parce que la jalousie, ça n'existe pas normalement chez eux.
Chez eux, non. C'est
du vinaigre.
Très bizarre, mais c'est boire du vinaigre. Ouais. Alors ça contamine au moins 40% de la population des mossos, et notamment chez les jeunes qui eux vont beaucoup sur Internet. Voilà, donc c'est pour ça. Encore que des fois, bon, ça arrive que chasser le naturel, il revient au galop. comme ce qu'on connaît chez nous, souvent les couples se défont, et chez les Mossos, bah, c'est la même chose, hein, et du coup, ils reviennent à leurs anciennes coutumes. Mais bon, malheureusement, ça n'empêche pas malheureusement la destruction progressive de leur mode de vie. Ce qui est très triste.
Évidemment, oui, puisque l'État chinois est quand même redoutablement fort par rapport à tout cela. On va s'écouter un petit chant Mozo, tiens, pour se faire plaisir. Il arrive, le voilà. Même quand il n'y a pas de mariage, on arrive à mettre des musiques traditionnelles mosso, comme quoi finalement la musique
c'est. Mais non, un c'est peu pour partout. Le folklore des touristes.
Ça, c'est plutôt pour ça.
Alors, il y a eu l'avènement du patriarcat. Et on a vu avec les mosso, le patriarcat mène une vraie guerre ouverte et permanente contre le matriarcat.
Oui, mais pour bien comprendre d'où ça sort tout ça, il faut se référer à l'organisation sexuelle des sociétés. Car si on comprend l'organisation sexuelle, on va comprendre pourquoi le patriarcat s'est petit à petit imposé. Mmh. Alors, on l'a vu chez les Iroquois, la société sans classe sociale a été petit à petit déstabilisée aussi par la colonisation.
Oui.
On trouve un peu la même chose qu'avec les Mosso. Mais ce qui va être la clé de la dégradation du groupe communal familial vers le modèle de famille patriarcale, ça réside bien dans la répression sexuelle. Chez les Iroquois, par exemple, les maisons des alliances ont été petit à petit interdites. Elles sont venues, parce que là encore, c'est assez naturel, hein. Mais le mariage est une institution patriarcale qui va autoriser la domination des hommes sur les femmes.
Mais le mariage, pourquoi?
Ah oui, je te reconnais bien là, toi, défenderesse du mariage homosexuel. Non, le mariage, pourquoi? Eh bien, on va essayer d'écouter ce que nous dit, enfin, de relire ce que dit l'ethnologue Malinowski. Alors, Malinowski, c'est une personne que sûrement la plupart de nos auditeurs connaissent, parce qu'il a décrit la société des Trobriandais. Les Trobriandais sont un peuple de l'océan Pacifique à l'ouest de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Ah oui.
Et ce peuple a été effectivement tout à fait bien décrit par tout le monde. On l'a beaucoup connu et beaucoup de gens en ont entendu parler parce qu'ils jouissent d'une énorme liberté sexuelle et qui sont en plus d'une nature totalement pacifique.
Donc leur société est donc une société matrilinéaire.
Oui, Les enfants font partie du clan de leur mère avec leur oncle maternel. On a un peu le même système avinculaire que chez les Mozos.
Ouais. Mmh.
Cette identité est d'ailleurs complètement connotée par des métaphores du genre « nous avons sucé le même sein », etc. Ouais. Entre un père et ses enfants, il n'y a donc aucun lien de parenté par une base d'une appartenance corporelle quelconque. Ouais. Le père biologique est d'ailleurs appelé Tomakawa, ce qui veut dire, je prononce très mal sûrement, hein, mais ça veut dire étranger du dedans.
Ah d'accord.
Du coup, il est rentré quand même. Du coup, entre le père et le fils, il n'y a pas de transmission de biens. Il n'y a d'ailleurs pas de biens. Il n'y a pas de transmission de tradition non plus d'ailleurs.
Et les jeunes gens qui veulent des relations sexuelles, ils se rencontrent comment alors ?
Alors, de la même manière que chez les Iroquois, on retrouve ici des maisons dites de célibataires, ouais. Les Bunku Matula. Les adolescents et les jeunes adultes ont à disposition ces Bunku Matula, où là, les relations sexuelles se font et se défendent librement au cours des temps. Mmh. Dans chacune de ces petites maisons-là, il y a des petits espaces où les gens, y compris les jeunes enfants d'ailleurs, puisqu'on peut avoir de vraies relations sexuelles dès l'âge de 6 à 8 ans chez les Trobriandais, bien, ils vont se rencontrer, ils vont choisir. Alors, des vraies relations sexuelles, il faut aller voir.
Monsieur. Ouais.
Peut-être que Malinowski est allé regarder de très près.
Ouais.
Mais bon, en tout cas, il y a ici des expérimentations sexuelles qui se font chez les
Parce
enfants.
Parce que chez nous, on appelle ça la pédophilie. Hein.
Entre enfants, non.
Entre enfants. Ce veulent, ah enfants. Oui, donc c'est entre enfants. D'accord.
Les jeunes adultes, par
ouais,
contre, font ça entre
ouais.
jeunes adultes
oui,
et avec les parents.
Voilà.
C'est vrai que la question de l'âge est peut-être ambiguë chez les Trobriandais,
ouais.
parce qu'on a parfois des relations sexuelles qui peuvent avoir lieu très jeunes entre
d'accord.
des adultes et parfois quelques individus qui, chez nous,
oui,
on serait des très jeunes. Les relations sexuelles commencent généralement à 12-13 ans.
Ouais.
Mais si les adolescents multiplient les expériences sexuelles, ils le font bien avant de choisir une personne qui leur convient le mieux pour faire des enfants. Et tenez-vous bien, ce sont les filles qui décident, c'est jamais les garçons. Donc ici, ça réduit beaucoup la pédophilie.
Oui.
Les jeunes garçons et les jeunes filles, d'ailleurs, font des excursions amoureuses, ça s'appelle des katuyosi, vers les villages voisins. Ils vont donc aller chercher là-bas et ils vont s'installer dans la maison des célibataires pendant une nuit ou deux. Parce que là, ils ne sont pas obligés de repartir le matin. C'est déjà un avantage par rapport aux moissons. La liberté sexuelle va donc empêcher toute notion de paternité, mais elle va aussi empêcher toute notion d'héritage. Ici, c'est ouais. bien l'amour libre qui garantit la société libre.
Mmh.
Alors, si on revient au patriarcat, on s'aperçoit que le patriarcat est au contraire une société principalement basée sur la répression sexuelle, avec la prise de possession des femmes. C'était le fameux échange des femmes de Lévi-Strauss. Mais on retrouve ça dans nos sociétés à nous, avec le fait, par exemple, que la femme change de nom pour devenir, en quelque sorte, la possession de
ouais,
son mari.
C'est ça.
La reconnaissance de paternité, la filiation paternelle et l'héritage des biens, tout ça va fabriquer le patriarcat.
Mais pourquoi la répression sexuelle, donc, a-t-elle un lien avec la paternité ?
Et oui, la paternité et la répression sexuelle sont parfaitement liées. Parce que comment garantir l'identité du géniteur ? Comment garantir le père ? Eh bien, il faut une répression sexuelle à travers un système qu'on appelle le mariage.
Ouais.
Si on empêche ou qu'on punit une femme pour qu'elle ait des enfants sans père reconnu, eh bien, automatiquement, le mariage va s'instaurer. Tout écart au mariage sera donc sévèrement puni. Et une femme vierge sera beaucoup mieux placée sur le marché de l'échange patriarcal des femmes
ouais.
et du mariage. C'est ici, d'ailleurs, que la féodalité va trouver des sources et sa barbarie. La paternité exige donc qu'il y ait un pouvoir des hommes et une dominance des hommes, et ça ne peut être vrai qu'avec la marchandisation des femmes, avec ce que Lévi-Strauss prenait pour quelque chose de naturel, l'échange des femmes. Toutes les lois répressives contre les femmes n'ont qu'un seul but, contrôler leur sexualité. Grâce au mariage, ça va reconnaître, ça va garantir la reconnaissance de paternité.
Père, voilà.
le gars qui se marie avec une fille, il dit en quelque sorte, je vais reconnaître tes enfants. Mais en même temps, ça oblige à une filiation paternelle. Et pour avoir cette possibilité de reconnaître les enfants, eh bien, on va détruire le droit des femmes pour garantir le droit des pères, pour garantir l'ordre des pères. Tout ce qui va donc changer ça, comme par exemple les unions libres, la liberté d'aimer, les mères célibataires ou les enfants illégitimes, vont devenir petit à petit la lie de la société et sont souvent condamnés sous le joug patriarcal.
Notamment l'homosexualité, puisqu'il n'y a pas d'enfants qui...
En tout cas, il a fallu attendre la révolution sexuelle des années 70
ouais.
pour remettre sur le devant la liberté d'aimer et l'union libre. Alors l'union libre, les anarchistes l'avaient déjà largement popularisée. Et ces idées libertaires ont petit à petit gagné beaucoup de terrain et commencent à miner petit à petit la phallocratie et le patriarcat. En plus, maintenant qu'il y a la découverte de peuples matriarcaux et d'organisations animales matrilinéaires, on voit que ça va remettre en cause toutes les théories sociologiques académiques qui stipulent qu'on ne pouvait pas avoir de société viable sans mariage et sans répression sexuelle.
Bon, le patriarcat réprime les femmes. On pourrait penser que la phallocratie, le patriarcat, ça satisferait au moins les hommes.
Ah oui, parce que le patriarcat conduit forcément au pouvoir des hommes, donc à la phallocratie. Mmh. Alors, la phallocratie et le patriarcat semblent constituer des modèles de répression sexuelle parfaitement contre les femmes, mmh, en exigeant la virginité des femmes. Du moins, dans nos sociétés, on va au moins exiger leur manque d'expérience. Et puis, de toute façon, leur fidélité et leur jeunesse. Ouais. Ce qui est remarquable, c'est que les femmes vont aussi, finalement, revendiquer cette fidélité pour pouvoir ne pas craindre, en quelque sorte, leur mari. Ouais. Mais le patriarcat, ça s'avère aussi une aliénation des hommes. Bien que ça donne le rôle principal à l'homme, ça donne aussi le rôle principal à la rivalité virile, ouais, à la marchandisation, à l'héritage. Les hommes se retrouvent toujours les rivaux sexuels d'autres hommes face, ouais, à des femmes qui ne sont pas disponibles. Les femmes, à chaque fois, il faut leur donner plein de choses et donner plein de choses, ouais, prouver qu'on va les avoir et donner sexuellement. Ouais. On va donc dépendre des ressources qu'on a. Sans argent, pas de vie sexuelle et pas d'héritage. Et donc le patriarcat va se prolonger dans la vie sociale en construisant l'inégalité de la société de classe, l'inégalité d'exploitation. Le patriarcat organise donc à la fois la répression sexuelle des femmes et la répression sexuelle des hommes.
Et voilà.
Bon, après, il y a les religions qui imposent en plus la répression,
ouais,
sexuelle.
Oui.
Grâce au mariage, ils vont promettre ensuite des lendemains heureux,
ah ouais,
pour tous ceux qui obéissent bien. Et donc, on va se retrouver avec le système du mariage dans un emprisonnement sexuel des femmes et dans un emprisonnement sexuel des hommes.
Voilà.
Les deux sexes vont d'ailleurs participer à cette aliénation-là, puisque le mâle va avoir tout le pouvoir. La femme, pour avoir une partie du pouvoir, est obligée, en quelque sorte, de suivre l'idée de la famille et de participer,
voilà,
à la protection de ses propres enfants. Comme elle participe à la protection de ses enfants, elle va petit à petit favoriser les possibilités d'héritage, continuer à construire l'inégalité, voilà, avec l'héritage et la société de classe. On le voit, le patriarcat est par conséquent une double barbarie, une barbarie contre les hommes, une barbarie contre les femmes. Bref, c'est un crime contre l'humanité.
J'allais me jeter, je t'aime par une reine que j'avais aimée. que les hommes que j'aime, je voudrais vous parler. Les hommes que j'aime, ce jour, embrasser au bord de la scène où j'allais me jeter. Je prépare une reine que jamais, jamais, plus que les hommes que j'aime.
C'était La rue qui est à nous, Les hommes que j'aime.
Un morceau bien dynamique pour nous rappeler un petit peu où nous en sommes dans cette société particulière. Alors on l'a vu, évidemment, le patriarcat laisse bien peu de place à la sexualité, puisque par définition, la paternité impose que l'on contrôle la sexualité des femmes et qu'on la réduise à la reproduction. Voilà. La conséquence, le fait de réduire les femmes à la reproduction et à diminuer la sexualité n'est pas la conséquence du patriarcat, mais bien au contraire, le fondement même du patriarcat, le fait qu'on participe à l'échange des femmes et à la constitution d'une marchandisation de relations sociales. Alors la violence face à la sexualité et l'usage de la sexualité pour la violence, particulièrement contre les femmes, a des racines biologiques profondes. On l'a déjà dit, on en a déjà parlé, ça trouve sa source dans le conflit sexuel.
Voilà.
Mais le conflit sexuel biologique, le conflit sexuel chez les animaux, c'est d'abord la réconciliation qui est en jeu. Le conflit lui-même est une base dynamique dans laquelle les individus vont petit à petit se retrouver, se comprendre et effectivement participer à un phénomène majeur dans le monde animal qu'on peut appeler le consentement. Ouais. Si le rouge-gorge chante, c'est pour dire à la femelle, est-ce que tu consens un accouplement avec moi? Et à chaque fois, cette organisation du consentement s'est fait petit à petit chez toutes les espèces animales dans une liberté sexuelle totale. Alors, la paternité, voilà. Oui.
Alors que dans cette société patriarcale, justement, le consentement, il est flou un peu.
Il
quand
est
même.
Complètement flou. Puisque le père va reconnaître ses enfants, on peut même, en quelque sorte, légitimer le viol familial. C'est ce qui a été fait pendant très longtemps. Le viol conjugal a été légitimé sous le nom de devoir conjugal.
Devoir,
voilà. Mais comme la paternité et l'idée du couple permanent n'apparaissent pas dans la nature, la vie sociale de la plupart des espèces animales s'organise autour de lignées matrilinéaires et égalitaires. Les systèmes matrilinéaires vivent de liberté sexuelle. Oh, ils pourraient aussi vivre de tyrannie et de non-égalitarisme.
Oui.
Mais ça n'a pas été le cas, en tout cas jusqu'à présent. Les femelles n'ont jamais imposé leur méthode de pouvoir. La patriarcalisation des sociétés, punaise que c'est difficile à dire, la patriarcalisation des sociétés, elle a commencé en instaurant la marchandise, parce que la marchandise, c'est aussi l'héritage.
L'héritage.
Et l'héritage a besoin de la paternité, de l'ordre des pères, il a besoin de la féodalité. L'histoire de l'installation du patriarcat reste donc sanguinaire. Le développement d'un pouvoir coercitif, de l'ordre phallocrate, a dû déclencher probablement des révoltes et des représailles en retour. Et le patriarcat n'a pu s'édifier que par la brutalité. Partout, en fait, le matriarcat a été combattu par la force pour installer un asservissement économique.
Mais il fallait, plus on avait de pouvoir, plus on avait de possessions. Donc, pour avoir ces possessions, il fallait faire la guerre. Donc,
Et ça conduisait effectivement à instaurer des éléments de protection, pseudo-protection, autour des communautés, et donc à renforcer encore le patriarcat. Mais c'est bien la répression sexuelle qui apparaît comme le facteur nécessaire à l'apparition de la phallocratie et à l'avènement du patriarcat. Car c'est en gardant un contrôle sur la sexualité que l'on peut authentifier qui est le père, qui est le géniteur.
Mmh.
Alors l'ordre des pères peut s'imposer et va restreindre la sexualité féminine en dedans du mariage. Le mariage a donc été inventé pour garantir la reconnaissance de paternité. L'interdit du sexe hors mariage est donc le verrou de la famille patriarcale. Et la femme passe tour à tour de la tutelle de son père à celle de son mari. En conséquence, elle n'est quasiment jamais qu'une mineure qui se prolonge sur le marché du mariage.
Mmh.
Et la valeur commerciale de l'épouse va dépendre de son âge, de sa beauté, de sa fertilité, mais surtout de sa virginité, ou du moins de sa quasi-virginité et de son inexpérience. Le mariage établit donc un commerce des femmes et instaure une sexualité la plus rare possible et la plus limitée possible. Alors le patriarcat, ce n'est pas la domination des femmes par les hommes. C'est une société fondée sur la répression sexuelle et sur la reconnaissance de la paternité. La domination des hommes n'en est que en quelque sorte, l'élément final. Voilà. Dans le patriarcat, qui peut être très libéralisé, la future mère peut même avoir beaucoup plus d'intérêt à choisir un géniteur très protecteur, et donc un géniteur riche. Très riche. Et elle va, en quelque sorte, favoriser encore plus le patriarcat en choisissant son mari. Et le mâle choisit la plus jeune et la plus vierge et aussi la plus fertile.
Et il y a aussi le fait qu'on me disait chez les Mosso que eux, leur but, c'était aussi de faire plaisir à la femme. Mais dans la société patriarcale, la sexualité de la femme, elle tombe à côté. Quoi,
elle retombe uniquement dans la possibilité reproductrice, puisque l'objectif, c'est d'avoir des descendants qui vont pouvoir posséder un peu plus, un tout petit peu plus. En plus, c'est un marché de dupes, parce que les pauvres, de toute façon, n'auront jamais la possibilité d'un véritable héritage. Ouais. L'héritage, il ne concerne vraiment que les riches, même si les pauvres ne s'en rendent pas compte. Ce qui est plus grave, c'est que les pauvres vont défendre cet héritage. Ils vont défendre ce patriarcat. Et même les femmes vont le faire. Et comme la beauté physique va rester la seule possibilité, l'unique possibilité d'élévation sociale chez les femmes jeunes ou jolies, ou encore les femmes qui se croient supérieures parce qu'elles ont fait quelques études, ne vont plus avoir aucun intérêt à se rebeller contre la société patriarcale, puisque cette société va la favoriser comme un objet qui se vendra mieux que les autres sur le marché du mariage patriarcal. Mmh. Donc cette rivalité des femmes va finalement entraîner les femmes à soutenir ce patriarcat, et le patriarcat peut même modérer sa propre phallocratie. On est actuellement dans une phase de libéralisation du patriarcat qui essaye de modérer sa phallocratie en plaçant des femmes aux commandes. Évidemment, il ne place des femmes aux commandes qu'à la condition que les femmes génèrent un contrôle de la sexualité pour garder un pouvoir absolu sur la marchandise et sur les héritages. Les femmes qui vont être aux commandes doivent se comporter comme les hommes, dans l'objectif de conserver une société qui est bouclée par l'idée du mariage, ou du moins par l'idée du couple monogamique. Sans cette sélection des mâles qui vont le plus posséder, sans la sélection des mâles les plus possédants, sans la garantie de paternité, ben, il n'y a plus de possibilité d'héritage ou de marchandise. L'héritage permet donc la transmission des inégalités sociales, ça permet la privatisation des ressources économiques, et ça souligne évidemment l'étroite corrélation qui existe entre tous les processus de domination.
Oui.
Mais ceux qui nous ont décrit les animaux, les biologistes qui ont osé décrire les animaux en termes de mâles dominants, les scientifiques qui n'ont pas vu les mangoustes libertaires, les scientifiques qui n'ont pas vu la liberté sexuelle d'être brillant, les sociologues qui n'ont pas compris les problèmes de répression sexuelle, sont des scientifiques bornés au point d'être incapables de saisir le monde vivant autrement qu'à travers l'idéologie du couple et du patriarcat.
Ils étaient bien formatés, donc ils n'ont pas vu autrement.
La suite sera donc une révolte où l'émancipation des femmes sera également celle des hommes, celle de tous les humains refusant l'aliénation, l'exploitation et le pouvoir. Et vive l'anarchie !
Vive l'anarchie ! Auditeurs, auditrices intrépides, vous pouvez nous contacter donc en téléphonant en studio ou par l'email de l'émission science libre@gmx.fr. Donc vous pouvez télécharger cette émission à partir du site Trou Noir, qui nous accueille, et nous aurons le plaisir de nous retrouver tous les quatrièmes lundis de chaque mois à 18h sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchique, pour décortiquer la biologie et les idéologies qui la parcourent. Ainsi se finit cette émission de Science à la Liberté, animée par Thierry Laudet, avec la complicité de Christelle, de Monique à Paris, et la musique d'introduction et de Hicham Chahidi. J'ai bien dit là ?
Ah, tu l'as bien dit, Hicham Chahidi.
Et nous allons conclure avec André Mainviel, des Dames et d'Hommes.
Va la vie d'homme, va la vie d'homme. Voyez-vous balancer la tome, dit la vie d'homme, va la vie d'âme. Une mélodie de Perron à Paname, valse la dame et la vie d'homme. Elle tourne sur le phonogramme, comme une ritournelle s'exclame. Oyez polygame dans l'air des rhizomes, pas de royaume, pas d'oriflamme. Ces airs de nomade en personne, c'est du Perron, c'est de la vie d'âme, de celui qui foule comme le font les roms. Errance dame, errance d'homme. L'histoire des hommes qui se trament dans leur vie d'âme et d'homme, en somme de dame et d'homme. Tu les portes sur le dos, mémoire d'Italo, de la Courneuve, ainsi à Monte Cassino, tes mélopées, chromosomes, et tes pas de manche, mais de petits bonhommes. Ainsi tu remontes. minute de temps diatonique patient, tu laisses les silences à d'autres diapasons, à faire bouger le décor vers d'autres horizons, ça le fait pour de bon. Se donne de la vie d'homme à la vie d'homme, soufflant sur la délicate petite flamme. Qu'est la vie d'homme, qu'est la vie d'homme, du bout de tes doigts qui se pomme, va ta vie d'homme et romance. Oyez, polygone dans l'air des rhizomes, girolambome, chant de sésame. Nous nous sommes épris, tu nous donnes, vas-y l'idiome, toutes les gammes du concert qui invite à des regards de l'homme. Si la vie d'homme, si la vie d'homme, c'est comme un air de palindrome, c'est de la vie d'homme et d'homme, en somme, de dame et d'homme. Tu les portes sur le dôme et moi relis talot de la cour, la vas-y à Monte Cassino, tes mélopées chromos, on mettait pas de manque, chemin de petit bonhomme. Ainsi tu remontes le temps diatonique patient, tu laisses des silences à d'autres diapasons, à faire bouger le décor vers d'autres horizons, ça le fait pour de bon. Comme va la vie d'homme, va la vie d'homme, voyez-vous balancer la tome, dit la vie d'homme, va la vie d'homme, une mélodie de Perron à Paname, valse la dame, mais la vie d'homme. Elle tourne sur le phonogramme, comme une ritournelle s'exclame. Oyez, polygame dans le rhizome, pas de royaume, pas d'oriflamme. Ces airs de nomade en personne, c'est Luperon, c'est de la vie d'âme, de celui qui foule comme le font les roms. Errance d'âme, errance d'homme, l'histoire des hommes qui se trament dans leur vie d'âme et d'homme, en somme, de dame et d'homme.